Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, comme il avait été annoncé, nous allons commencer à partir de dimanche prochain une toute nouvelle série, puisqu'on a terminé 2 Timothée avant l'été, une nouvelle série sur les 10 commandements. D'accord? Donc ça, je me réjouis énormément de commencer ça. On va prendre notre temps, peut-être même faire un commandement par dimanche jusqu'à Noël. C'est un petit peu l'idée que j'ai maintenant. Mais alors aujourd'hui, j'allais commencer, mais finalement, j'avais autre chose sur le cœur, parce qu'après un voyage comme on a vécu aux États-Unis, eh bien, il y a pas mal de choses qui me tournent dans l'esprit. Et donc, je voulais vraiment revenir à quelque chose de basique, mais quelque chose d'important, surtout en démarrant en automne, une nouvelle année. Et donc, j'ai tout simplement intitulé ce message de ce matin, Le portrait d'une église ardente. Le portrait d'une église ardente. Alors, comme j'ai déjà expliqué, on revient de ce voyage où nous avons visité quantité d'églises aux États-Unis. Visiter des pasteurs, des anciens, toutes sortes de personnes qui fréquentent toutes sortes d'églises aux quatre coins des États-Unis. Alors c'est vrai qu'on a été de Miami à Los Angeles, de Seattle à Boston et beaucoup d'endroits entre, donc c'était un petit peu un voyage de fou. Mais ce qui m'a frappé, bon beaucoup de choses, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est non seulement l'immensité du pays, mais le nombre impressionnant d'églises qui se trouvent dans ce pays. C'est franchement incroyable. Il y a des églises partout, partout. Même dans les endroits les plus paumés, il y a des églises. C'est incroyable de voir ça. Et la plus petite église que nous avons visitée, et la plus petite église dans laquelle j'ai prêché, avait 20 personnes en Floride. La plus grande qu'on a visitée, c'est celle de Grace Church en Californie, elle a 10 000. La plus grande où j'ai prêché à 5 000. Et là, ils ont 3 cultes, un juste après l'autre, 3 fois le même message, clac, clac, clac. C'est comme ça que ça se passe. Et ils ont terminé avec un concert merveilleux avec Steve Green et Larnell Harris. Je ne sais pas si vous connaissez ces noms, mais Larnell Harris, c'est un Américain noir, chanteur de gospel, mais c'était incroyable. Toute leur chorale d'église, c'était vraiment génial. Mais c'est vrai qu'avec une grande église, il y a des moyens, ils peuvent inviter des gens comme ça, mais c'était vraiment quelque chose de merveilleux à voir. Alors sachez que je les ai invités les deux à venir à Genève et ils ont dit oui. D'accord? Maintenant, il faut qu'on s'organise. J'en ai déjà parlé avec Flavius. Alors après qu'il s'est senti un petit peu sonné par l'idée, ben, il a dit ben, écoute, on va faire le nécessaire, mais on verra quand. Hein. Ça, c'est justement une invitation comme ça, juste marrante. Mais alors c'est vrai que dans toutes ces églises, nous avons visité des grandes et des petites églises. Des églises jeunes et moins jeunes, des églises avec des locaux impressionnants et celles avec des locaux un peu tristounets, petits, des églises avec beaucoup de jeunes, des églises avec beaucoup de personnes âgées, des églises avec un peu tout, des églises traditionnelles, des églises très modernes et jeunes. Bref, nous avons vraiment vu des églises de tout genre. Et alors, ce qui aussi m'a frappé, c'est que dans la plupart de toutes ces églises qu'on a vues, moins peut-être 3 ou 4, toutes, d'une manière ou une autre, avaient vécu une sorte de division, une séparation avec une autre église. C'est assez commun. Alors je me suis dit, voilà, l'ennemi attaque, c'est évident, de manière puissante, mais Dieu, dans sa souveraineté parfaite, utilise même des divisions pour multiplier les églises et leur donner d'autant plus de zèle pour atteindre le monde. Dieu peut prendre une tragédie et la tourner pour sa gloire. Alors, en revenant à Genève et en vous retrouvant aujourd'hui, l'Église internationale de Genève, et en considérant que nous sommes une Église relativement nouvelle, on a presque 3 ans en novembre, il m'a semblé bon ce matin, en ce début d'année, de revoir encore une fois les bases. Voilà ce que j'aimerais voir avec vous ce matin. Il fait toujours bon de revenir au béaba pour être certain, dans cette phase d'église, de jeunes églises que nous sommes, que nous prenions les bonnes décisions et que ces décisions correspondent à la Bible et que nous assurions en obéissant ce que le Seigneur veut, qu'il nous bénisse s'il veut nous bénir. Nous devons constamment revenir à la parole de Dieu et nous aligner à elle pour que nous soyons tout ce que Dieu veut que nous soyons. On ne veut pas créer une église et ensuite justifier nos décisions en essayant de tordre la parole de Dieu et la coller à nos décisions. On veut faire le contraire. On veut consulter la parole de Dieu et coller nos décisions à elle. Donc, le message de ce matin, le portrait d'une église ardente. J'aimerais, comme vous, je pense, faire partie d'une église ardente, vivante, brûlante, zélée. Une église qui aura un réel impact dans cette ville de Genève que nous aimons tous. Alors, voyons ce que la Bible dit par rapport à cela. Alors, c'est dans le livre des Actes que j'aimerais aller. Ce n'est pas un message flash, ce n'est rien de nouveau. C'est plutôt une révision de choses basiques mais importantes. Recadrons toujours ce que nous devons voir vis-à-vis de la parole de Dieu. On est en Actes chapitre 2, et c'est là où quelque part nous trouvons le prototype d'une église ardente. Et c'est ici que nous voyons la naissance de la toute première église du monde. Alors ça c'est intéressant hein, de penser que c'est la première église qui n'a jamais existé. Elle est là dans Actes 2, alors si on l'examine, on regarde, ben peut-être on va tirer des principes pour voir comment nous, on devrait aussi vivre notre Église. Alors, quelles sont les marques qui caractérisent une Église ardente? Juste le contexte, là, vous rappelez que Jésus est mort, ressuscité, il a passé 40 jours avant d'être enlevé au ciel. Dans le verset 8 du chapitre 1, il promet l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples repartent pour Jérusalem, ils attendent l'arrivée de ce Saint-Esprit qui avait été promis. Matthias est désigné pour remplacer Judas. Le Saint-Esprit descend sur eux dans le chapitre 2, et là Pierre prêche un sermon étonnant d'évangélisation, au chapitre 2, des versets 14 à 40. Et moi, j'aimerais lire à partir du verset 36. C'est la fin du message de l'apôtre Pierre. Et regardez ce qu'il dit. On est dans Actes 2, à partir du verset 36. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Maintenant, regardez. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors voilà notre texte ce matin. Alors juste, là, on va parler de l'Église, juste pour définir les termes. Lorsque on parle d'une Église, on dit souvent « Moi, je vais à l'Église, à telle et telle Église, à tel et tel endroit. Hein. » C'est souvent ce qu'on dit. « Moi, je fréquente l'Église de. » Alors, c'est juste et c'est pas juste de dire ça. C'est vrai qu'on fréquente une Église de, mais nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes l'Église. Et le mot « église » vient du mot « ekkaleo », « ecclesia », appelé hors de quelque chose. Une église est composée de ceux qui sont appelés hors des ténèbres à la lumière par Jésus-Christ. Alors il y a bien sûr l'église universelle. L'église universelle, toute personne qui est convaincue de son péché, qui se tourne vers Christ, est pardonnée de ce péché, et immédiatement sort des ténèbres pour venir dans la lumière. Et donc elle fait partie ce jour-là du corps de Christ. Donc l'Église universelle, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est ça, d'accord? On fait tous partie du corps de Christ. Mais en parcourant le Nouveau Testament, vous verrez très vite qu'aucun chrétien ne vit sa vie seule et de manière indépendante. Non, le Nouveau Testament décrit tout au long de ses pages des églises locales. Par exemple, en lisant les épîtres, Quand vous écrivez, vous lisez par exemple l'épître des Colossiens, des Éphésiens, Corinthe, Rome, Thessalonique, ce sont toutes des villes, mais dans lesquelles il y avait une église locale. Et donc ces épîtres ont été écrites à des églises locales. Ces églises sont souvent appelées troupeaux aussi. Donc il est important de comprendre cette distinction. Nous faisons tous partie de l'église universelle, mais nous sommes intégrés dans une église locale. Il y en a beaucoup à Genève. Nous, c'est celle-ci, c'est là où le Seigneur nous a placés, dans celle-ci. Alors, question. En regardant plutôt l'église locale, et puisque la première était à Jérusalem, quelles sont les marques de cette église ou d'une église ardente? Bien, il y en a 10. D'accord? On va les regarder une à la fois. Très simple, très basique, mais j'espère que ça nous aidera à comprendre comment nous devrions être. Numéro 1. La première marque d'une église ardente, c'est une église où le salut est proclamé. Où le salut est proclamé. Regardez au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Alors dans le verset 37, on voit ce qu'il faut faire pour être sauvé. Premièrement, il est dit, après avoir entendu ce discours, les gens, les non-croyants, les juifs qui étaient là, ont entendu le discours de Pierre, et là, il annonce l'évangile. Regardez au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. La parole de Dieu prêchée touche le cœur. » Le cœur réalise que face à la parole de Dieu, il est noir et pécheur, et qu'il a un problème, ce cœur. Au verset 37, ils reconnaissent leurs besoins. Ils dirent à Pierre et aux autres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » C'est intéressant. Pierre proclame la parole, et tout d'un coup, la question se pose, « Mais alors, qu'est-ce que je dois faire ?» Apparemment, il y a un vide, il y a quelque chose qui me manque dans la vie. Ben oui, c'est le pardon en Christ qui manque à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc là, ils reconnaissent qu'ils ont un problème. Que ferons-nous? Et au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, accepter sa parole? La parole, c'est la parole de l'Évangile, comme elle a été enseignée. Mais au verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous ». Donc, il y a une repentance. Et cette repentance, c'est premièrement de reconnaître que Dieu est saint et justifié dans son courroux, reconnaître que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, que face à la sainteté de Dieu, mon péché me coupe de lui, donc je suis mort dans mon péché, Éphésiens 2 nous dit. Réaliser que je ne peux rien faire de moi-même pour ôter ce péché. Je peux essayer d'être une bonne personne, autant que je veux, c'est bien, mais je n'arriverai jamais à ôter tout mon péché, ce n'est pas possible. Et reconnaître que seul Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi, peut me pardonner, peut expier mon péché. Lui a pris mon péché à la croix, à Golgotha, et m'a donné à la place de mon péché sa justice. Il me pardonne. Et cela, on l'accepte par la foi. Vous connaissez Éphésiens 2, 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et au verset 38 du chapitre 2, il dit, « Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et ensuite, il dit, « À cause du pardon de vos péchés. » Voilà la clé. Écoutez, c'est une offre incroyable. Ne nous détournons pas, et jamais, de ce simple message. Christ t'offre le pardon total de tes péchés passés, présents, futurs. Tac ! Comme ça. En un instant, reconnais ton péché si tu ne le connais pas. Demande-lui de rentrer en toi, de te pardonner ton péché. Ça, c'est l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile. Et quelque chose va se passer tout de suite. Aussitôt que tu connais Christ, Jean-Baptiste l'a dit comme ceci dans Matthieu 3, 8. Et il dit, verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Verset 6, en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, conversion, baptême, et verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. Dieu va transformer ton cœur noirci de péché, va remplacer ce cœur par un cœur justifié, pardonné, et tout d'un coup, ce que tu n'aimais pas avant, la sainteté, tu vas commencer à l'aimer, et ce que tu aimais avant, le péché, tu vas l'aimer de moins en moins. Et il y a une transformation qui va se faire dans ton cœur. Et de plus en plus, tu vas aimer la sainteté, la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, Dieu, Jésus-Christ, l'Église. Tu vas dire, waouh, mais je change complètement. Et oui, il te transforme de l'intérieur. Et ce n'est plus toi qui vis, Galates 2:20, mais Christ vit en toi. Alors, ça paraît tout simple, mais vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas ce message. Je vous donne un exemple. On était chez la cousine de Meg, il y a peut-être une semaine en arrière, à Seattle. C'était complètement dingue. Alors, on discute et on arrive sur le sujet d'église. Je lui dis, tiens, est-ce que tu fréquentes une église? Ah ouais, je fréquente une église presbytérienne. Je dis, ah ouais, super, et puis comment elle est? Elle a dit, ah ben écoute, moi je vais uniquement à l'école du dimanche pour les adultes, mais je ne vais jamais au culte. Je dis, ah bon, c'est intéressant ça, c'est un petit peu, d'habitude c'est le contraire, non? Elle a dit, ah oui, non, pour moi c'est l'école du dimanche, puis après, c'est mais le culte, j'y vais jamais. Je dis, mais pourquoi? À quoi elle me répond ceci? Nous sommes une église libérale. Et ce que j'aime avec notre Église, c'est que nous prônons l'écologie et nous aimons l'eau pure. J'ai dit, quoi ? Elle a dit, voilà, nous on montre des films écologiques et politiques pendant l'école du dimanche. Et ça, c'est super. Donc, nous, on est là pour améliorer notre monde. Mais le culte, j'y vais jamais. Il n'y avait rien du message de l'Évangile. C'est étonnant. Et là, elle était fière de ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, notre église, elle est libérale. » Qui veut dire qu'elle n'est pas du tout évangélique dans le sens où elle prône l'évangile de Jésus-Christ. Alors, il n'y a rien de mal de vouloir parler écologie. Peut-être vous aimez l'écologie, c'est très bien. J'ai aucun problème avec ceux qui sont écolos ou qui aiment l'eau pure. Moi aussi, j'aime l'eau pure, hein, surtout en Suisse. Super, moi je suis d'accord. La politique, si vous voulez parler politique, aucun problème, tout le monde a un avis politique, mais est-ce que c'est le rôle de l'Église? Non, je pense que le rôle de l'Église, c'est de propager la parole de Dieu. Ça, c'est le premier rôle de l'Église, l'Évangile de Jésus-Christ. Deuxième trait d'une Église ardente. Le baptême est exercé. Bon, on a déjà vu dans chapitre 2, verset 38, mais je ne suis pas dans le bon livre là. Dans 2.38, il dit ceci, « Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. » Alors c'est qui se fait baptiser? Ben, les chrétiens qui sont déjà croyants. La meilleure... Alors il y a un débat sur le verset 38. Parce que certains veulent préconiser qu'il faut se repentir et se faire baptiser pour être sauvé. Mais la meilleure lecture, sans rentrer dans le détail, est celle-ci. Repentez-vous, et là, c'est comme si on peut mettre une parenthèse. Repentez-vous, virgule ou parenthèse, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. On referme la parenthèse à cause du pardon de vos péchés. Donc le pardon des péchés vient à cause de la repentance et notre foi placée en Jésus-Christ, pas à cause du baptême. Et cette lecture est juste du fait que les Écritures sont claires, du fait que le pardon des péchés est basé uniquement sur la foi et pas sur le baptême ou une autre œuvre quelconque. Alors là, c'est assez facile de le montrer. Hein. Le salut, par exemple, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc clairement, on est sauvé par la foi. Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Et comme je viens de lire aussi dans Éphésiens 2, 8 et 9, on est sauvé par la foi et pas par les œuvres. Et il y a des exemples aussi. Hein. Par exemple, dans Acte 8, l'eunuque éthiopien, lorsqu'il se convertit, il dit « Mais qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé ?» À quoi on lui répond « Il faut en premier croire en Jésus-Christ, il faut confesser son nom. » Et donc, c'est clair que le baptême suit la conversion, c'est un acte d'obéissance qui suit la conversion. Alors, pourquoi est-ce qu'on se fait baptiser? Vous le savez, Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 et 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mes amis, c'est un commandement, c'est un commandement. Et comme on l'a déjà souvent dit, c'est un symbole de notre mort en Christ, c'est notre résurrection avec lui, mort au péché, ressuscité à la nouvelle vie. Romains 6, 3. Et je pense aussi que c'est une affirmation publique et donc définitive de sa foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est clair et net. J'ai un ami musulman qui s'est converti à Jésus-Christ. Et je me rappelle très bien, lorsqu'il s'est décidé de se faire baptiser, une parenté à lui m'a appelé pour me supplier de ne pas le baptiser. Pourquoi ? Parce qu'elle savait que ce pas serait décisif pour lui et qu'il ne reviendrait pas en arrière. Il tirait quelque part un trait définitif sur l'islam en devenant disciple de Jésus-Christ, et c'est impressionnant, je trouve. Parce que cette personne le savait. Elle n'était pas chrétienne, mais elle savait très bien que c'était le baptême, le cri public, comme quoi, maintenant, c'est définitif. Alors, comment j'ai répondu ? Supplier, une heure au téléphone. J'ai dit, écoutez, madame, je ne peux pas demander à cette personne de ne pas se baptiser lorsque Christ lui ordonne d'être baptisé. Il s'est donc fait baptiser par immersion. Baptizo, en grec, veut dire immergé. Alors moi, je dirais que si vous êtes croyant et pas baptisé, vous êtes en fait en désobéissance. Vous devriez être baptisé, vous devriez publiquement affirmer votre foi, sans honte, sans crainte. Et vous dire, ben voilà, moi je veux me faire baptiser, moi je veux être clair avec le Seigneur. Alors vous savez que nous, on fait les baptêmes une fois par an, en janvier, l'église de l'oratoire. Hein, d'habitude, c'est mi-janvier. Moi, je vous invite déjà à vous inscrire. Il y a déjà 2-3 personnes qui m'ont dit, ah moi, John, moi je veux me faire baptiser. Super. Venez déjà aujourd'hui, on va commencer la liste. Préparez-vous déjà. Pour le mois de janvier, on va regarder, c'est super. On a déjà vu 16 baptêmes dans notre église, hein. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Le Seigneur est tellement bon. Donc voilà le deuxième trait d'une église ardente. Baptême. Troisième trait d'une église ardente, la parole de Dieu est enseignée. Chapitre 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc là, il y avait des conversions incroyables. Et regardez verset 42. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Trois détails importants. Premièrement, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est quand même intéressant. Le verbe actif est placé, la responsabilité est placée sur qui là, quelque part ? Ben, sur le peuple. Sur l'Église. C'est eux qui persévéraient, ou qui étaient appelés à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alors, les apôtres avaient leur rôle d'enseigner, tac, 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 mais le peuple ici est appelé à persévérer. Ah, mais tu sais, moi, aujourd'hui, je suis fatigué. Moi, j'ai une soirée vraiment longue hier soir. On persévère. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'engagement qui se fait, qui s'installe, où on se dit, ben voilà, moi, je veux y être. Je dois apprendre. Alors, c'est important ça, parce que on croit, on grandit par la parole, n'est-ce pas ? Il est dit dans 1 Pierre 1, 25, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est intéressant hein, l'image. C'est un petit nourrisson qui a faim. Vous avez déjà entendu un nourrisson qui a faim et qui ne reçoit pas son lait ? Il crie. Dans l'avion, il y en avait quelques-uns. Hein. Est-ce que nous, on est comme ça, qu'on n'est pas nourri, on crie. Je veux la parole. Donne-moi un sermon vite. Donne-moi une étude biblique vite. Donne-moi la parole de Dieu vite. Est-ce qu'on est comme ça ? Est-ce qu'on est, oh, encore un sermon. Oh, encore une étude. Hein, la nature humaine, comment elle est ? On devrait désirer, persévérer. Ça aussi, ça... Je pense que ça révèle une assiduité, c'est sur le long terme, vous savez, on ne grandit pas dans sa foi par des sprints. Ce n'est pas un sprint pour le Seigneur, c'est un parcours de longue date. C'est pour ça que j'aime les personnes âgées dans l'Église, vraiment. Parce que ces personnes âgées qui ont marché longtemps avec le Seigneur, c'est un rappel, ce n'est pas un sprint mes amis, ce n'est pas un sprint. C'est jour après jour, semaine après semaine, mois après moi, année après année, jusqu'à la fin. persévérer dans l'enseignement des apôtres. J'ai toujours été impressionné, vous savez, je donne pas mal de tours de la réforme à Genève, j'ai fait ma thèse en fait sur le sujet, sur Calvin à Genève. Il y a toujours un gars qui m'a impressionné, alors Calvin m'impressionne bien sûr, mais il y avait un autre gars qui m'impressionne presque plus que lui, c'est un gars qui s'appelle Ragonier. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Calvin il prêchait tous les jours, enfin une semaine sur deux, mais il prêchait environ 10 fois par semaine, d'accord. Et alors il prêchait sans notes, directement du hébreu et du grec. Alors très vite, quelqu'un a réalisé, mais attendez voir, mais il prêche sans notes, il n'y a rien pour enregistrer, ça n'existait pas, donc si quelqu'un ne prend pas des notes pour lui, on ne va rien avoir. Donc il y a un gars, un étudiant français qui s'appelle Ragonier. Et Ragonier s'est dit, moi je vais prendre des notes. Le problème c'est que Ragonier, il n'arrivait pas à écrire très vite, parce qu'à l'époque, ce n'était pas un ordinateur, un iPod ou un iPad ou rien, c'était de l'encre, c'était l'hiver, la cathédrale, il fait froid, imaginez, c'était du parchemin, c'est un peu la galère quoi. Alors le gars, il a inventé une écriture, comment ça s'appelle, le sténo. Il a inventé un sténo pour aller vite, parce que Calvin, il parlait vite. Et ce gars, pendant des années, chaque fois que Calvin prêchait, il allait dans la cathédrale, premier rang, et il écrivait tout ce que Calvin disait sur papier. Hiver comme été. Un jour, Ragonier meurt. Catastrophe, qui va continuer le travail? Mais il avait trois copains, étudiants, qui se sont dit, c'est nous qui allons continuer le travail. Le problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas le sténo. Donc les trois, ils se sont mis à écrire, ils se mettaient ensemble, ils écrivaient à fond. Et ils se sont dit qu'à trois, on arrivera à recomposer, si on rate certains trucs, on va recomposer le message de Calvin. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils écrivaient à fond en français. Ensuite ils revenaient, ils faisaient un sermon, ils prenaient les trois notes, ils écrivaient ces sermons, ils présentaient ça à Calvin, ils relisaient, puis ensuite ils terminaient avec un sermon propre. Je me suis dit, mais alors là mes amis, il y a des gens qui avaient faim pour la parole de Dieu. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Que nous ayons un appétit et que nous avancions avec ferveur auprès de la parole de Dieu. Quatrième marque d'une église ardente, une église où les responsables sont qualifiés. Encore, il dit, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors, je pense que le principe est tout simple. Le Seigneur a mis en place des apôtres, des disciples, et aujourd'hui, il met en place dans les églises des anciens. C'est eux qui devraient mener l'église, et vous connaissez le passage dans 1 Timothée 3, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Waouh, ça c'est une liste. C'est important que nous revenions toujours à ce code, à cette liste de qualifications pour être ancien, parce que Jacques 3:1 nous dit ceci, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Voyez-vous, c'est une immense responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper. Si on se trompe et on propage l'erreur, ça peut avoir des résultats catastrophiques. Et c'est intéressant que la manière que la Bible préconise pour être un bon enseignant, alors c'est une partie, je dirais, mais c'est la partie morale, c'est justement d'avoir une vie morale. Si la vie correspond à cette liste, alors parfaitement, bien sûr, probablement jamais, mais si l'ancien tend vraiment à faire partie ou à se conformer à cette liste, eh bien, il y aura un effet bénéfique sur son examen des Écritures et son enseignement. Mais, si la vie a un manque de moralité, s'il y a des déviances morales, eh bien, tôt ou tard, il va prendre la parole de Dieu, et pour justifier sa vie, il va devoir la tordre un petit peu. Et c'est comme ça que l'erreur et l'hérésie commencent. Donc, il dit, faites attention, sondez les Écritures avec soin, de Timothée 2,15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Priez pour vos anciens, priez pour nous. Vraiment priez pour nous et que le Seigneur nous aide à vraiment tenir bon, à être des hommes de Dieu, des maris de Dieu, des parents de Dieu et des leaders de Dieu. 5. Cinquième marque d'une église ardente, une église où la communion fraternelle est pratiquée. La communion fraternelle est pratiquée. De nouveau, hein, c'est rien de nouveau, mais je pense que c'est intéressant. Regardez ce qu'il dit au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et des prières. Je trouve intéressant verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Et on partageait le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est vrai que lorsqu'on utilise la phrase communion fraternelle, on parle surtout des repas fraternels, par exemple. Où, attends, on invite des gens, on fait un barbecue chez nous, il fait beau, piscine, sympa. D'accord, c'est une communion fraternelle, c'est de l'amitié. Et ça, c'est vraiment important et ça, c'est bien. Mais ici, le mot koinonia, c'est vraiment un mot qui parle de partenariat. Des relations profondes entre individus où on est prêt à s'aider mutuellement. Ça va plus loin que simplement une amitié sympa, on se croise, on se fait la bise, on se dit bonjour, on boit un café, clic, et on part. Ça va bien plus profond que ça. C'est intéressant, c'est le même mot utilisé dans 1 Jean 1, 3 et 5, entre le Père, le Fils. Regardez ce qu'il dit dans 1 Jean 1, 3. Il dit ceci, « Ce que nous avons vu, entendu, nous vous annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » C'est la même communion qu'on a avec le Père et le Fils. Donc, c'est vraiment profond. C'est une relation vraiment personnelle. Et de nouveau, on persévère dans cet élément. Hein, c'est ce qu'il dit. Dans Acte 2, il persévérait dans la communion fraternelle. Nous savons aussi que Jean 13:33 nous dit que par notre amour, il y aura un effet sur les non-croyants autour de nous. À ceci, verset 35, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moi, j'ai eu un exemple frappant de cette réalité aux États-Unis, justement, quand on a laissé James. Vous savez que James, on l'a laissé aux États-Unis, il a 16 ans, hein. Et la première famille haute qui voulait le prendre, bah, malheureusement, la maman est devenue très très malade, donc on n'a pas pu le mettre là. Mais quand le besoin a été évoqué dans notre église, une autre famille, qu'on connaît un peu, mais pas beaucoup, a tout de suite, ça a été annoncé pendant un culte, et cette famille est allée vers Meg, lui a dit, écoute, nous on aimerait prendre ton fils. Mais ils n'ont même pas eu le temps d'y réfléchir, quoi, 5 minutes, même pas. Alors on a dit, enfin, Meg a dit, ben, j'étais pas, elle a dit, écoutez, c'est super sympa, gentil, mais on va voir. Et là, ils ont persévéré, ils ont dit non, nous, on veut vraiment prendre James, on aimerait qu'il intègre, ils ont déjà 2 enfants, on aimerait qu'il intègre notre famille. Et on aimerait vraiment qu'il devienne notre fils pendant 2 ans. Et on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça pour nous? Moi, il n'y a aucun sens. Pourquoi est-ce que quelqu'un inviterait notre fils à vivre avec eux pendant 2 ans pour lui permettre de faire l'école et vivre son rêve de faire du sport aux États-Unis? C'est incroyable. Et là, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah, c'est Dieu qui a mis ça sur leur cœur. C'est un don d'hospitalité. C'est une communion fraternelle. C'est un désir de servir, de sacrifier pour quelqu'un. Mais c'est intéressant. Nous, on voit ça comme un sacrifice. Mais pour eux, ils sont tellement heureux. Il nous appelle, il nous écrit des mails, il trouve ça génial. Là, je me dis, voilà, c'est un exemple pour moi. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour aider quelqu'un? Peut-être pas comme eux, mais peut-être qu'il y a d'autres besoins, on en est conscient. Et on est là pour vraiment prendre soin les uns des autres. C'est des défis, hein. Surtout dans une société d'individualisme comme la nôtre. Il faut que j'avance. 6e marque d'une église ardente, une église où le repas du Seigneur est partagé. On va le faire dans quelques minutes. Hein, c'est ce qu'il dit au verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le repas du Seigneur, c'est quoi? Ben, vous savez qu'il y a deux ordonnances, deux choses qu'on est obligé de faire, commémoratives dans le Nouveau Testament, le baptême et le repas du Seigneur. C'est une cérémonie qui commémore tout simplement la mort de Jésus-Christ. Et il veut qu'on vienne régulièrement à la table du Seigneur pour nous rappeler de manière très concrète, Christ est mort pour nous. Je suis pardonné. Son corps et son sang ont été sacrifiés pour moi. 7. Une église ardente, c'est une église où la prière est cultivée. Hein, dis donc, ces versets 41-42 sont vraiment remplis d'informations. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le mot littéralement veut simplement dire espérer devant Dieu. Mot général qui nous parle de simplement prier Dieu. Nous apportons nos fardeaux et nos requêtes et nous espérons en lui afin qu'il nous entende et qu'il réponde selon sa volonté. Et vous pouvez lire le livre des Actes, vous verrez que l'église primitive était une église qui priait. Mais également, on a commencé quelque chose. Vous savez, on a la toute nouvelle liste d'adresses de l'église. Si vous êtes régulier dans l'église, vous en avez reçu une parce que votre nom y figure. Mais maintenant, on prend cette liste et on prie pour deux familles chaque jour. Donc, ça va faire qu'avec le temps, on va prier pour chacun de vous de multiples fois. On pense qu'une manière méthodique va être beaucoup plus saine. Et comme ça, assurément, on va prier pour tout le monde. Alors je me dis, mais si on fait tout ça, si on prie tous les uns pour les autres, avec nos autres sujets en plus, ça va être génial. Ça va vraiment être génial. Alors bien sûr, on a des réunions de prière, on l'a annoncé, il y a des groupes de maison, il y a des moments de prière. Tous les ministères dans l'église, d'une manière ou d'une autre, ont des moments de prière. C'est une église qui prie, n'oublions pas de prier. Et ne pas simplement dépendre sur nos atouts, je dirais, physiques ou humains, mais que nous dépendions du Seigneur pour tout ce que nous faisons dans cette Église. 8e marque d'une Église ardente, une Église où le Seigneur est exalté. Regardez verset 47. Et louant Dieu, tout simplement louant Dieu. C'est une expression d'admiration. Quand votre épouse met une super belle robe pour une soirée particulière et vous lui dites « Oh chérie, t'es super jolie ce soir ben, !» Vous venez d'admirer votre femme et lui dire « Hautement recommandé, d'accord ? Dites-lui. » Très très bien ça, d'accord ? Eh bien, louer Dieu, c'est ça, c'est d'admirer Dieu pour qui il est, pour ses attributs, pour ses atouts, pour tout ce qu'il est. J'espère que notre Église est caractérisée par ça, une louange. Louange à Dieu, tout est dirigé vers Dieu. L'homme fait partie de l'Église, on a tous des rôles à jouer, mais que tout pointe à Dieu, qu'on élève le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Et je me réjouis de commencer notre étude sur les 10 commandements, parce que les premiers commandements parlent de Dieu, d'honorer Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsqu'on est ensemble, j'espère qu'on parle beaucoup de Dieu, de Jésus-Christ. Qu'on se partage des versets, qu'on s'encourage vis-à-vis de Dieu. 9e marque d'une église ardente, une église où la pureté est exigée. Alors là, on passe au prochain chapitre parce que c'est dans le contexte. Mais très vite, avec les bénédictions de Dieu sur cette église, elle grandit, des milliers de personnes qui se convertissent, des gens qui se baptisent à droite et à gauche. Et là, vous savez, comme dans toute église, le péché arrive. Dans chapitre 5, verset 1, « Mais un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété, retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis la porta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. » Ils ont fait une transaction financière, ils avaient promis l'argent à l'Église, au Seigneur, et puis finalement, quand ils ont vu le gros lot, ils ont gardé une partie, donc c'était considéré aux yeux de Dieu comme un vol, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le promettre, mais ils l'ont fait quand même, ils l'ont promis, et ensuite ils ont retenu part. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan t'a rempli ton cœur ?» au point que tu mentes au Saint-Esprit. Donc il y avait clairement mensonge ici, que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'a-t-il pas à ta disposition? Donc tu n'étais pas obligé de faire cette promesse à Ananias, mais tu l'as fait et tu as volé. Comment as-tu pu permettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors voici le verset dingue. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Le gars, il tombe. Et il meurt dans l'église. probablement tellement convaincu de son péché, il a probablement une attaque du cœur, on ne sait pas. Hein. Une crise cardiaque. Alors le résultat, une grande crainte saisit tous nos auditeurs. Ben, ça, je parie que oui. Ah ben dis donc. Parce que Pierre venait d'annoncer, tu as menti. Donc le péché était clair, c'était public, et paf, il meurt. Waouh! Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. 3 heures plus tard, il y a sa femme qui entre. Elle ne sait pas ce qui vient de se passer. Même scénario. Clac, elle meurt. Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Verset 13, il y a eu tellement peur et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Les gens se disaient, ouh, faites attention, l'église de Jérusalem, si vous y allez, faites gaffe, vous allez mourir. Votre péché risque d'être exposé publiquement. Faites gaffe, n'y allez pas. Alors ils disaient, ouh, on ne veut pas y aller. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Je crois qu'il y a un principe ici. Dieu veut la pureté dans l'église. Il y a d'autres textes, hein, Matthieu 18 et d'autres, qui nous parlent, en Corinthiens 5, de l'importance que l'église soit pure. Alors, on ne va pas à la chasse au péché, mais quand il y a des péchés manifestes, des choses qui sont claires, qui font mal à la personne et qui font mal à l'Église, eh bien, il faut les traiter. Et parfois, ces choses doivent être amenées publiquement devant l'Église. Et moi, je trouve ça intéressant de voir ça simplement dans Acte 5. L'Église naît dans Acte 2, déjà dans Acte 5, il y a le premier acte de discipline publique, c'est incroyable. Moi, je prie vraiment, ça, vraiment, que jamais on doit passer par ça ici, dans notre Église. Vraiment, j'espère. J'espère qu'on est tellement sensible à notre péché que quand il se manifeste, et il se manifeste, on est tous pécheurs. Que ce soit en pensée, en parole ou en action, il y aura des moments où on va faire des bêtises. Et quand on est confronté, quand quelqu'un nous parle, quand on le voit, la réaction, c'est d'humilité, c'est de dire « Ah ouais ». Frère, sœur, t'as raison, je suis vraiment navré, quoi. Galates 6:1. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Il faut qu'on se redresse mutuellement. Il faut qu'on s'aide mutuellement à marcher droit, pur, bien devant le Seigneur. Et au fait, moi je ne vous apprends rien de nouveau. Vous savez pourquoi on se réunit? Vous savez pourquoi c'est important de se réunir? Vous n'avez pas pensé, mais John, je pourrais écouter Internet pour le culte. Je pourrais écouter la radio, si je veux aussi. Il y a toutes sortes de manières de... Pourquoi est-ce qu'on doit venir ensemble, dimanche matin en plus? Enfin, la grâce matinée, serait, des fois, c'est un petit peu mieux, non? Ah, bonne question. Parce que Hébreux 10:24 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour aux bonnes œuvres ». Moi, j'ai besoin de vous pour que vous m'excitiez à l'amour et aux bonnes œuvres. Et vous avez besoin de moi, et on a besoin les uns des autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et ça, c'est difficile de faire par Internet. Alors, Facebook, on est d'accord, c'est très bien, hein, mais c'est pas pareil que quand on est à 4 yeux. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Réunissons-nous et exhortons-nous. C'est le but. Donc, je ne suis pas spectateur quand je viens. Je suis acteur. Je suis actif. J'ai besoin d'être repris, j'ai besoin de reprendre, j'ai besoin d'être exhorté, j'ai besoin d'exhorter, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'encourager. C'est un dialogue que le Seigneur nous aide. Et 10e marque d'une église ardente. La bénédiction de Dieu est manifestée. La bénédiction est manifestée. Moi, je trouve ça génial. Alors, on a déjà vu hein, au verset 43... Et la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles, d'apôtres. C'est le mot phobos, fear en anglais, crainte, la peur. Alors bien sûr, Dieu avait donné à ces hommes le don de miracles, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, ça c'est sûr. Il y avait la parole, il y avait cette église qui avait démarré avec des milliers de conversions, c'était une église incroyable. Ben, tout ça, ça crée une crainte, une peur, plutôt un étonnement, un waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. C'est un petit peu ce sentiment-là, un étonnement. Au verset 46, regardez, ils étaient chaque jour assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie. Deuxième trait, il y avait la crainte, mais il y avait la joie aussi. Les gens, ils étaient heureux. Ah, j'espère que ça va continuer. Ça, c'est un truc que je vois dans notre église. Je trouve que nous sommes globalement heureux. Hein, on aime le Seigneur, on aime être les uns avec les autres, on aime sourire, on aime être ensemble. Il y a une joie qui se dégage de cette église. Vous savez, on me dit qu'à Genève, il y a beaucoup de gens déprimés. On m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un tiers de tous les Genevois ont un dossier à Belle Idée. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est bien possible. J'espère que pour nous ici, ce sera toujours différent, car une joie d'être ensemble, une joie d'être avec le Seigneur. Que notre Église soit vraiment caractérisée par cette joie. Alors regardez ce petit point incroyable au verset 47. Il louait Dieu, et regardez, et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Très intéressant. Une Église qui prêche l'Évangile, qui confronte le péché, qui annonce Jésus-Christ. On pourrait dire, on va pas être populaire. Non, on sera pas populaire pour le message. Mais c'est intéressant que cette même église, où il y a les conversions, l'enseignement, communion fraternelle, prière, Sainte-Cène, etc., cette église, regardez, peut trouver grâce auprès de tout le peuple. Voyez-vous, le monde nous regarde. Et le monde va nous examiner, se dire, mais t'allais voir dans cette église. Waouh, les mariages, top. Les enfants, waouh, top, très différent que dans le monde. Waouh, l'éthique du travail, un employé top, employeur top si vous êtes chrétien. Waouh, ils sont vraiment différents. Ouais, et puis nous respectons les autorités, nous payons nos impôts. Mais t'allais voir, mais c'est des gens parfaits presque. Bon, parfaits, on se comprend. Mais ce sont des gens super géniaux. Et quelque part, Dieu peut donner ou peut nous permettre de trouver grâce auprès du peuple. C'est pas un mal d'être apprécié même par le monde. Non, c'est pas un mal. C'est ce qui s'est passé ici. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On peut parfaitement trouver grâce auprès de tout le peuple et être parfaitement efficace et jamais compromettre le message de Jésus-Christ dans cette Église. Et moi, j'aspire à ça. J'aspire que le Seigneur nous permet de trouver grâce auprès du peuple de Genève. On va parler plus du concert de Noël qu'on est en train d'organiser. Peut-être ce sera aussi un élément qui pourrait familiariser les personnes avec le message de l'Évangile. Et notre Église aussi. Voilà, écoutez. La liste est intéressante, non? Une Église ardente, une Église où le salut est proclamé, le baptême est exercé, la parole de Dieu est enseignée, les leaders sont qualifiés, la communion fraternelle est pratiquée, le repas du Seigneur est partagé, la prière est cultivée, le Seigneur est exalté, la pureté est exigée et la bénédiction de Dieu est manifestée. J'en ai oublié un là ou pas? Non, c'est juste. Ouais. Ouais. Mais écoutez, on a encore quelques minutes, on va partager le repas du Seigneur. Je ne vais pas rajouter à ce que j'ai déjà dit, je crois qu'on est... J'espère prêt pour le repas du Seigneur. On va juste s'incliner, prendre quelques instants, peut-être pendant que Flavius, tu joues. Examinons nos cœurs, peut-être cette liste, peut-être vous avez été touché par quelque chose. Prenons quelques instants de réflexion personnelle et ensuite, on va partager le repas du Seigneur.